alors on a une grosseur ensemble, on va faire un petit tour de table, on va parler post-apo et relations entre l'humain et l'environnement urbain. Donc on va pouvoir essayer d'explorer un petit peu tout ça sur cette thématique. On a des auteurs qui soit ont fait du post-apo, soit ont imaginé des choses après l'apocalypse ou avant. Donc on va leur demander un petit peu leur apocalypse à eux, à chacun. Je fais un petit tour de table. Alors, tout au bout, Fabien Fernandez, qui est illustrateur, qui est auteur, auteur de romans avec Cœur sauvage et l'enfant mitrailleuse, qui sort là en avril, peut-être en avant-première, mais aussi qui travaille pas mal dans le jeu de rôle. Et puis on parlera de son boulot sur un jeu de rôle avec des figurines post-apo. Tu nous raconteras un petit peu tout ça là-dessus. Juste à côté, Philippe Curval. Je vous conseille vivement, il fait 1,383 kg. Il vient de sortir L'Europe après la pluie chez La Volte, qui reprend notamment Cette chère humanité, Le bonheur s'éveillera-t-il, ou Un souvenir du futur, avec une Europe en pleine déliquescence. Lui, il sera avant l'apocalypse, juste avant, donc il va peut-être pouvoir aussi nous en parler. On parlera peut-être de Congo Pantin aussi. Et tout ça. On a pas mal de sujets ensemble. À ses côtés, Laurent Genefort. Laurent Genefort, évidemment, vous connaissez tous Omal, évidemment, vous connaissez tous Point Chaud. Et récemment, il a sorti L'Humaine. Et dans L'Humaine, il y a une nouvelle post-apo.
Ah, mais oui, c'est vrai.
Et oui.
Tu sais pourquoi tu l'as.
Je pensais n'en avoir jamais fait, mais.
Et ben, voilà, finalement, hop, t'es piégé. François Barranger. À ses côtés. François Barranger, qu'on connaît notamment pour le diptyque Dominium Mundi, qui est sorti chez Critique et qui vient d'être réédité chez Pocket. Lui, il est bien après le post-apo.
Post-apo,
ouais. Et on va parler des conséquences. Et puis Philippe Cavalier, avec plusieurs séries, notamment Le siècle des chimères, Le Marquis d'Orgève, je ne connais pas le
Marquis d'Orgève.
Le Marquis d'Orgève. Et puis, alors pareil, Obos.
Obose.
Voilà. On va en parler aussi de tout cela. Donc on a vraiment du avant, du pendant et du après sur cette table ronde. Et ça, c'est chouette, parce qu'on va pouvoir vraiment plonger là-dedans. Et puis on va aussi peut-être se poser des questions sur le post-apo. On a tous des images en tête de films ou de dessins animés ou de choses comme ça. Et quelles influences ça peut avoir quand on est auteur et qu'on met en scène une situation un peu catastrophique. On va peut-être parler tout de suite avec Philippe. Que tu, dans l'Europe après la pluie, Europe un petit peu en déliquescence, comment est-ce que tu l'as construit et toi, tu es juste avant?
Oui, c'est-à-dire que c'était vers le début des années 70. J'ai imaginé que l'Europe allait se refermer sur elle-même, chasser tous les migrants et mettre un espèce de globe infranchissable autour d'eux. Donc c'est quelque chose d'assez prémonitoire. Et je crois que c'est pour ça qu'on l'a fait reparaître aujourd'hui, parce que c'est assez d'actualité. Ce qui m'a amené à ça, c'est que depuis longtemps, je suis un fanatique de l'Europe, et que malheureusement, j'ai toujours pensé qu'il y aurait des problèmes assez graves lors de sa construction. Problèmes très graves qui venaient justement de l'arrivée des migrants, de la répulsion de certains personnages réactionnaires contre cette invasion, et certainement l'envie de se refermer sur soi-même et de s'isoler du monde entier de façon à vivre entre soi, parce que c'était mieux avant. Donc ces personnages vont vivre dans une société tout à fait fermée sur elle-même, tout à fait étrange, en ce sens que les murs des immeubles sont fermés et qu'on a inventé une chose qui permet de réfléchir sur soi-même, c'est-à-dire des cabines de temps ralenti dans lesquelles on vit 7 jours en un jour, ce qui permet d'exploiter beaucoup son imaginaire. Mais malheureusement, leur imaginaire est très restreint, parce que comme c'était mieux avant, ce qui les intéresse surtout, ce sont des objets. Ils collectionnent des vieilles montres. C'est une immense société de collectionneurs renfermés, avec au centre la Suisse, qui, elle, n'a pas adhéré à ça, et qui est une espèce d'îlot au milieu de cet endroit. Et alors cette Suisse, évidemment, est en perdition, puisqu'elle n'a plus du tout aucun moyen de vivre, puisque les banques ne lui donnent plus rien. Et il va y arriver une chose, c'est qu'à l'extérieur de ce monde, évidemment, la société et les sociétés ont continué de développer, et il s'est réuni un peu ce qu'on appelle les pays en voie de développement, non, qui s'appellent les PEVOAD. Et un personnage qui s'appelle Belkacem Atia va essayer de pénétrer dans ce monde pour voir ce qui se passe, parce qu'il y a un grave danger, c'est que ces cabines de temps ralenties risquent d'envahir le monde et de stratifier la planète entière. Voilà, donc ça c'est la base de l'histoire. Et surtout, vous montrez dans cette histoire comment se construisait l'Europe. En particulier, il y a des votes électroniques à l'époque que j'avais déjà pressentis. Tout le monde est équipé de l'équivalent des Squatch, ils ont des bracelets com. Tout le monde s'est intercommuniqué. Tout ça, c'était en 1974, donc c'est quand même assez prémonitoire. Et il y a aussi des montreurs de rêve, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle religion qui s'est développée. Il y a une espèce de mosquée, mais qui sont des traces de cette émigration qui a été chassée, dans laquelle les gens s'étalent, et c'est super freudien, puisqu'on fait émaner les rêves des gens, et les gens peuvent les voir autour d'eux. Et donc ce personnage, Belkacem Atia, va se trouver dans ce monde dans lequel on voit toute l'horreur de ce qu'est devenue cette Europe. C'est-à-dire, d'une part, il y a une lutte contre la pollution absolument démentielle. Les gens ne peuvent plus se déplacer sans avoir un casque, des genouillères, etc., pour qu'ils ne tombent pas. Tout le monde est protégé. C'est une protection totale. Et il y a, par ailleurs, des quantités de dissidents, évidemment. Donc, il y a une lutte entre ces dissidents. Et puis aussi, il y a une grande description des normes. Il y a la construction des normes qui a entièrement étouffé la construction européenne. C'est-à-dire que là, donc il y a par exemple, il y a les 123 minutes des conférences de La Haye sur le traité des bordures de trottoir, par exemple. Donc on voit que tout ce monde est fermé autour de rien, à la construction de normes absurdes, et ils se réunissent pour rien. C'est un monde totalement clos, fermé. Donc c'est un peu ce que j'ai voulu exprimer, surtout, c'est le fait de s'isoler du monde entier amène forcément à la récession, à l'extinction de l'espèce, à l'extinction de l'intelligence et de la société en général. Donc c'est surtout ça que j'ai voulu dire dans ce roman. Mais je n'ai pas écrit que ce roman, donc il y en a trois autres dont on parlera après peut-être.
Hop, on a un micro pour nous tous. Moi je retiens que la Suisse a des problèmes avec les banques.
C'est très étrange comme roman.
C'est assez étrange. Ouais. C'est plutôt pas mal. Philippe Cavalier, on va parler de Dubose. On est en plein dedans, on arrive dedans. Là, pour le coup, la déliquescence a pris fin. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu le portrait de ce qui se passe?
Alors, dans Dubose, je n'anticipe en fait pas grand-chose. Je force le trait. On est dans une société qui est... on peut l'imaginer dans un futur vraiment très très proche, dans deux ou trois ans de notre époque. Et le point de départ du roman, ben, en fait, c'est la crise de 2008. La crise de 2008, moi j'ai pas du tout une formation d'économiste, une formation très, très littéraire et de sciences humaines, mais l'économie n'était absolument pas mon domaine. Et en 2008, ben, comme tout le monde, j'ai été bombardé d'informations que je maîtrisais mal, que je ne comprenais pas, un vocabulaire très ésotérique pour moi, un vocabulaire qui m'a un petit peu agacé. Donc j'ai essayé de faire ma culture économique tout seul, et puis en commençant à m'intéresser à tout ce qui se passait, à vouloir comprendre les origines de la chose, et bien des images me sont venues, et puis une envie de travailler tout ce matériel nouveau pour moi afin d'en faire un récit. Et ce récit, donc, c'est devenu Dubose, où la crise de 2008 n'était que le prémisse d'une nouvelle vague d'effondrement économique qui va, dans le roman, précipiter des millions de gens, un peu à la manière des années 30, va les précipiter dans le malheur, la misère, la nécessité économique de quitter les villes et les endroits d'où ils vivent pour aller chercher du travail ailleurs, s'il y en a, ou de reconstruire même une société parallèle, cette fois-ci sans jouer le jeu du monde capitaliste. Et s'organise peu à peu, tout au long du roman, cette contre-société qui abandonne les règles du jeu qui les ont précipités dans la misère. Donc voilà ce qui m'intéressait dans le roman, c'est à la fois illustrer cette décomposition du monde dont nous sommes tous les témoins aujourd'hui, et puis aussi comment peut se reconstruire un type de relation, un type de société qui n'emprunterait plus aux préceptes classiques qui nous ont menés là où, à l'impasse que nous constatons tous aujourd'hui.
D'accord. La reconstruction.
C'est une reconstruction.
Parlons un peu de stigmate, peut-être, avec Fabien. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment toi tu as travaillé autour de ça?
Alors, stigmate, à l'origine, c'est un jeu de figurines. Alors, ceux qui ne sont pas trop adeptes du genre, c'est ce qu'on appelle plus communément du wargame, c'est-à-dire des unités qui s'affrontent sur un terrain qu'on déplace et à l'aide d'outils comme des dés et ce genre de choses, on résout des actions. Eden, qui est en fait le jeu de figurines, prend un cadre donc post-apo. Je pense à l'origine plus pour des besoins guerriers et mécaniques de jeu, de groupes qui s'affrontent. Et plus récemment, donc, on a développé le jeu de rôle qui va avec. Donc, bien qu'il y ait une bonne matière de base sur l'univers d'Eden, des factions très 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 différentes, il a fallu enrichir ça avec des mécaniques de jeu et aussi des nouvelles créatures, parce qu'on parle de mutations dans Eden beaucoup. Donc tout ça s'appelle Stigmate. Pour revenir sur le sujet post-apo, en fait il se trouve que le monde a évidemment dégénéré. Des factions, on va dire, ultra-capitalistes se sont créées, les nations ont peu à peu disparu et en fait, les assemblées et sénats se sont fait remplacer par des dirigeants de grandes entreprises. Des laboratoires se sont multipliés pour se défendre, on va dire. Tout le monde a créé ses armes de son côté. Et au final, la pollution a pris le pas suite à des armes de destruction massive, et j'en passe, et des meilleurs. Jusqu'au jour où tout a vraiment pété avec des bombes atomiques, des bombes sismiques, et une intelligence artificielle qui a préprogrammé une sélection naturelle en préservant une partie de l'humanité sous terre dans des bastions sécurisés. Et évidemment, ces gens-là vivent en autarcie et ressortent à un moment donné pour découvrir qu'en fait, ils ne sont pas les seuls survivants. Et il y a des survivants à la surface qui, eux, ont muté. Et donc, c'est une rencontre des peuples, mais pas dans le bon sens du terme. Chacun y va de son territoire et de ce qui a mené à ce grand conflit, ben, on se retrouve avec des grosses factions qui sont entretues de nouveau et on peut dire qu'on est reparti dans un nouveau cycle guerrier.
Laurence, tu nous parlais toi de ta nouvelle peut-être.
Ah oui, alors... alors c'est vrai que j'avais pas du tout l'intention de faire du post-apo en écrivant lui-même. Le but de l'humaine, c'est l'histoire d'une colonie, en fait. Le pitch, c'était très simple à la base. C'était l'histoire d'une colonie dans le fin fond de l'univers, de son premier à son dernier habitant. C'est ça, c'était vraiment ça l'idée. Mais aussi avec l'idée de faire passer la ville, parce que c'est une colonie, mais qui est réduite à une ville, en fait. Parce que cette greffe humaine sur cette planète ne prend pas. Et donc c'est de faire passer cette ville à travers tous les états de la ville, tous les états emblématiques de la ville de science-fiction. C'était ça qui m'intéressait, c'est de, à travers une ville, de faire un peu un voyage de la ville de SF à travers le temps. Et donc dans mon projet initial, elle devait passer par une ville qui devait recouvrir l'intégralité de la planète, qui pouvait devenir invisible, qui était sous dôme, enfin voilà. Donc en fait, un petit peu tous les avatars de la ville SF, quoi, tout ça. Et jusqu'à ce cliché de la science-fiction des années 40, enfin, même on en trouve même dans les années 30, mais de la ville robot, c'est-à-dire de la ville où les êtres humains sont morts, ont disparu, se sont éteints ou se sont exterminés. Mais la ville qui continue à vivre comme un organisme autonome, en fait. La ville étant vue comme une sorte de legs de l'humanité, finalement, cette ville-machine, qui est une sorte de legs de l'humanité à l'éternité, et puis le côté absurde d'un système qui continue à vivre pour rien, puisqu'il n'y a plus personne à l'intérieur. Et alors, ce projet-là, il a un peu dégénéré, parce que c'était une fresque gigantesque, et que, voilà, moi, il faut que je publie, tout simplement. Et donc le projet s'est un peu réduit, mais en tout cas il reste cette intention de faire passer la ville par différents stades. Et du coup, comme je l'ai inscrit dans mon univers général qui est celui des portes de vent, enfin pour ceux qui connaissent un peu mes univers de space opéra, c'est une grande matrice qui est une grande matrice d'histoire qui est offerte par ce réseau de trous de verre qui permet à l'humanité d'essaimer à travers les étoiles. Et voilà, et donc je l'ai inscrit dedans, et donc du coup cette ville, elle est devenue emblématique de mon univers, et donc elle passe par les différents stades des colonies humaines, avec toute une nomenclature. Donc ça commence par site alpha, qui sont les voilà, quand l'humanité s'installe quelque part, ça s'appelle un site alpha. Et alors quand ça prend pas du tout, quand il y a ce que j'appelle l'altérition, c'est-à-dire un taux de mortalité supérieur à 25% dans les 5 premières années, la colonie est évacuée. Mais si elle franchit ce stade-là, l'humanité s'implante et on commence. Et voilà, donc ça devient une colonie légère, après une colonie lourde, éventuellement un agro-monde, etc., etc. Et ça va... Et moi, ce que je montre à travers cette colonie, c'est un peu une sorte de courbe en cloche. On voit en fait cette colonie qui va passer par différents stades, ce que je montre aussi, c'est toutes les occasions ratées de vivre, quoi. Toutes les occasions ratées. Et on voit en fait chaque nouvelle. Puisque c'est une sorte de fix-up, donc une série de nouvelles qui forment un récit unique, chaque nouvelle est une sorte d'échec, finalement, vers l'échec de l'humanité, mais qui n'est pas l'échec de la planète elle-même, enfin de la vie sur cette planète. C'est ça que je voulais montrer, mais c'est le propre post-apo que de montrer à travers une sorte d'échec général des réussites particulières, enfin voilà. D'opposer finalement le collectif et l'individuel. C'est souvent ça, pour moi, le sujet du post-apo, il est souvent là, en fait, je trouve.
François Baranger, du coup, dans Dominium Mundi, donc on est très loin après le post-apo. Est-ce que vous pouvez nous raconter la crise et puis l'émergence de ce qu'il y a eu après?
Par où commencer? Alors, en fait, l'idée... Le point de départ, c'est un certain intérêt pour les croisades, notamment la première croisade, qui est évidemment un événement historique, tragique, épouvantable, etc., mais qui est très fort, très présent dans l'imaginaire collectif. Tout le monde le connaît plus ou moins, on a tous une idée plus ou moins claire. Et j'avais envie de tenter le coup de transposer, enfin pas de transposer, mais d'adapter cet univers intéressant dans un futur lointain. Et donc de jouer le contraste entre l'archaïsme de la période et le futurisme. Enfin, de la période d'origine et le futurisme de la période où se situe l'action. Et pour ça, évidemment, l'idéal, le plus simple, c'est un cataclysme qui remet tout à zéro, qui rebat les cartes d'une certaine manière. Parce que là, c'est ça l'intérêt du post-apo, c'est qu'on rebat les cartes. C'est-à-dire on choisit ce qu'on veut supprimer de l'ancien monde, ce qu'on veut garder, et comment les gens s'adaptent à cette nouvelle donne. Et donc ça fournit des points de départ très... fertile pour des récits. Et donc Dominium, c'est ça, c'est un cataclysme classique, si j'ose dire, dans le post-apo, a réduit l'humanité au chaos, l'a fait régresser à l'équivalent économique, politique, social, culturel, etc., à peu près l'équivalent du haut Moyen-Âge, c'est-à-dire il y a 1000 ans. Et, mais par contre, la science n'a pas disparu. La science ne disparaît pas. Et donc on se retrouve dans une société qui mélange un archaïsme complet, archaïsme pas au sens péjoratif complet du terme, mais au sens exact, c'est-à-dire des modes de pensée, des modes de vie très très anciens, avec tous les aspects connus et classiques de la science-fiction. Et il s'avère que, comme souvent dans les récits post-apo, une grande partie de la Terre est devenue inhabitable, et donc il faut trouver de nouveaux territoires, donc on essaye d'essaimer sur les planètes les plus proches, des systèmes stellaires les plus proches. Et là, c'est le choc, dès la première mission, pareil, au sens exact du terme, c'est une vraie mission, comme une mission d'évangélisation, dès la première mission, sur la première planète la plus proche du système solaire, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le tombeau du Christ. Donc, évidemment, ça pose quelques petites questions, quoi. Et pas de peau, il y a déjà une civilisation qui est là, qui habite sur place, et qui, elle, n'est pas du tout d'accord pour se faire envahir. Donc on lance une nouvelle croisade, une neuvième croisade. Et donc le roman suit cette histoire-là en s'éloignant complètement des croisades originales. Ce n'est pas du tout une transposition, c'est une histoire originale, mais qui va s'inspirer de certains comportements, même de certains personnages d'ailleurs, de cette époque-là. Et donc voilà, c'est effectivement très loin de l'Apocalypse, puisqu'on est 200 ans après, mais les échos de ce cataclysme sont encore présents 200 ans plus tard dans le récit.
Donc, je vais revenir à toi, Philippe. Tu nous as présenté une situation en déliquescence. Est-ce que tu vas aller jusqu'à la crise ou jusqu'au post-apo dans ton univers?
C'est-à-dire que cet ensemble de trois romans qui s'appelle « L'Europe après la pluie » montre aussi ce qui s'est produit avant cette construction du Marcom, et en particulier ce qui m'intéressait, c'est pas tellement le post-apo, c'est le post-révolutionnaire. C'est-à-dire que dans le roman qui s'appelle « Le dormeur s'éveillera-t-il », j'ai imaginé que sous la pression des écologistes, des anarchistes, des révolutionnaires de tous bords, c'est-à-dire le monde ne s'écroulait pas, la société restait complètement défigurée, réduite à rien, mais par contre toutes les structures habituelles, donc on n'était pas dans un monde démoli, mais dans un monde où la société était déconstruite. Et donc là, c'était l'itinéraire très particulier de plusieurs personnages à travers ce monde où tout est à moitié fichu parce que les relations entre les gens sont complètement détériorées et que petit à petit, les groupes se sont constitués des minorités extraordinaires de n'importe quel genre, aussi bien religieux que politique, etc., ou même folkloriques, locaux, se sont stratifiés dans des petits coins, et donc toute l'Europe est devenue un espèce de... Surtout la France, en réalité, il s'agit surtout de la France à l'époque, ils se sont réduits en des milliers de petits trucs, des tribus pratiquement, qui se font la guerre entre elles, et puis donc montrer aussi comment la suite du nucléaire... non, c'est une autre chose. Et j'ai voulu montrer l'envers de ce qui aurait pu se produire, c'est-à-dire que dans ce roman... Au lieu d'avoir inventé le nucléaire, on a inventé le solaire spatial. Et donc ce solaire spatial, donc, on a mis des grandes plateformes dans l'espace et on projette avec des micro-ondes, donc le radar, des faisceaux d'énergie sur des centrales qu'ils reçoivent. Or, les écologistes, évidemment, ont déclaré que c'était absolument abominable, extrêmement dangereux de pouvoir se faire foudroyer comme ça n'importe où sur le territoire. Et donc il y a au contraire un banc de petits scientifiques qui vont découvrir le nucléaire et penser que c'est beaucoup mieux. Et donc là, il va y avoir une lutte complètement inversée de par rapport à ce qui s'est produit. Voilà. Donc surtout, ce qui est intéressant dans ce roman, c'est le fait de voir ce que peut produire une révolution ratée. Parce que c'est une révolution qui n'est pas unifiée, qui n'est pas portée par un mouvement politique et psychologique et philosophique, mais qui est la simple réaction d'une multitude de gens qui... Ce sont les indignés, finalement, qui ont réussi à foutre en l'air tout le système et montrer comment ça se passe après. Voilà. Donc le Marcom, après, va se construire sur ce désastre.
D'accord. D'accord. C'est une question de lecteur, et c'est une question ouverte. Quel est l'intérêt de la crise, en fait, en littérature? Parce que finalement, par exemple, quand vous parlez d'une société parallèle qui se constitue, est-ce qu'il y a besoin de cette crise-là? Est-ce qu'il y a besoin de cet apocalypse-là pour imaginer autre chose? Pareil pour Dominium Mundi, est-ce qu'on a besoin? À quoi ça sert, à un moment, de mettre en place, peut-être de manière narrative, ou simplement parce qu'il y a l'intention de dire quelque chose sur notre monde, de mettre en place ces crises?
En fait, tout dépend où tu la places, la crise. Si c'est un référentiel historique à partir duquel tu bâtis ton histoire, la crise, elle peut avoir le... Oui, excuse-moi, du coup, je me suis approprié le truc. Ça peut faire basculer le récit dans le merveilleux. C'est-à-dire que la crise, elle va faire la rupture entre le monde contemporain et le monde de la fiction. Donc c'est le cas par exemple pour le tien, souvent par exemple Star Trek, c'était le cas. Star Trek, c'est devenu une utopie à la suite d'une crise très grave, une quasi-apocalypse, mais qui a fait prendre conscience à l'humanité de ses limites et donc de la volonté de changer complètement, et donc ça devient une utopie scientiste, mais une utopie quand même. Et donc ça, la crise, ça peut être ce moment de changement de l'humanité. Voilà, ça permet d'avoir un avant et un après, mais ce qui est un marqueur de merveilleux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on imagine une crise qui est une sorte de singularité, quelque part, tout ce qu'on peut imaginer après, ça devient réellement... Voilà, on brise la chronologie de l'histoire. Voilà, on n'est plus dans l'histoire. Maintenant, quand on met la crise au centre de l'histoire qu'on fait, là, on n'est pas dans le post-apo, finalement. On est dans la peau. Et là, pour le coup, ça devient l'enjeu et ça n'a plus rien à voir, en fait. On est dans un autre type de récit.
Moi, je me suis quelqu'un.
Moi, je suis d'accord, c'est un point de rupture et un catalyseur. D'un autre, vu de plus loin, je travaille en ce moment sur un roman qui se passe à Détroit, qui n'a pas du tout de science-fiction, mais Détroit représente assez ce point de convergence, c'est-à-dire un urbanisme très fort, la crise de 2008, pour ne citer que la dernière, qui a vraiment frappé et en fait a fait fuir presque les trois quarts de la population. Et maintenant... À l'heure actuelle, Détroit, comme souvent, se reconstruit. La population qui a été vraiment complètement abandonnée par les gouvernements se réapproprie les sols, fait des urban gardens. Ils développent complètement leur potager, vivent vraiment presque en autarcie. Enfin, c'est en train de se développer vraiment. Et je pense que ça rejoint pas mal l'idée post-apo qu'on peut avoir suite à une crise, mais à une échelle différente, évidemment.
Par ailleurs, je pense quand même que le fondement de la science-fiction, c'est la crise. Mais pas forcément une crise guerrière ou de ce genre, mais simplement le glissement de la réalité vers une autre réalité. À partir du moment où on fait une spéculation, par exemple l'invisibilité ou le voyage dans le temps, qui sont des choses qui n'existent pas, à partir de ce moment-là, on crée un événement différent. Donc ça n'est pas spécialement une crise, mais c'est simplement un glissement de réalité qui va amener l'auteur à développer toutes les conséquences de cette invention particulière ou de cette dérégulation du réel. À partir du moment où on voit bien ça dans Dick, par exemple, c'est pas forcément des choses absolument atroces qui se produisent, c'est simplement, par exemple, dans La vérité avant-dernière, vous avez un personnage qui se réveille et puis il va chercher à boire quelque chose. Il met une pièce dans un distributeur et au lieu d'avoir un verre, il a un ticket sur lequel il y a marqué verre. Et à partir de là, tout va démarrer. Donc vous voyez, c'est simplement la crise. C'est pas une crise, mais c'est vraiment un glissement de réalité et c'est le fondement même de la science-fiction. Là-dessus, évidemment, on peut rajouter une crise qui se produit à la suite de ce décalage de réel, mais fondamentalement et surtout parce que la science-fiction, au début, c'est la nouvelle. Et dans cette nouvelle, on peut très bien montrer en 15 pages une situation qui se dérégule et qui se régule, ou au contraire se devient de pire en pire. Et je crois que c'est ça le propos même de la science-fiction.
Peut-être votre avis à tous les deux ?
Oui, je n'ai pas trop quoi ajouter, si ce n'est que peut-être le post-apo, au sens où on l'entend en général, surtout au cinéma, c'est juste après. Et donc, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est des survivals. C'est des gens qui essaient de survivre après la crise. Et que, en général, c'est ça qu'on appelle le post-apo. Mais on peut aussi pousser plus loin, et c'est le cas de Dominion, où c'est non seulement comment les gens ont survécu, mais comment ils se sont reconstruits. Qu'est-ce qu'ils ont gardé de l'ancien monde ? Comment ils se sont adaptés ? Est-ce qu'ils répètent les mêmes erreurs ? Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est pire ? Etc. Et donc ça, c'est vrai que c'est en général, moi, quand on me dit post-apo, je pense tout de suite Malville ou des choses comme ça, pour rester très français. Mais c'est-à-dire comment les gens survivent, ou Mad Max, exemple typique. Mais ça, c'est qu'on est plus dans l'action pure, c'est-à-dire vraiment dans l'aventure. Après, si on veut bâtir une réflexion ou une histoire plus fine, plus subtile, disons, qui ne se voit pas au premier abord, on est obligé de se placer un peu plus loin et d'imaginer comment on s'est reconstruit. Et bien là, c'est vrai qu'on s'éloigne un peu de ce qu'on appelle en général le post-apo.
Alors, je ne sais pas, mais d'une manière générale, en fait, ce qui est très intéressant dans les littératures d'imaginaire, alors, c'est vrai particulièrement dans le post-apocalyptique, le genre post-apocalyptique, c'est que tout ça est une littérature qui permet beaucoup de spéculations et de formulations d'interrogations qui sont politiques, métaphysiques, religieuses, philosophiques. Souvent, ces questions-là sont posées par cette littérature de manière très, très subtile. Parfois même tellement subtil que beaucoup de lecteurs passent un petit peu à côté. Il y a un lectorat qui méprise un peu cette littérature dite de genre parce que ces questionnements n'apparaissent pas en première lecture, en première couche. Il faut vraiment creuser les thématiques et les récits pour les aborder. Et moi, je trouve que c'est une manière très élégante et très amusante d'aborder des questionnements très profonds. Le post-apocalyptique particulièrement, et notamment cette époque extrêmement troublée, où on sent tous qu'une métamorphose est en train de s'opérer sous nos yeux sans qu'on parvienne véritablement à en cerner les causes, les tenants, les aboutissants, les pourquoi, les comment. Je pense que les auteurs qui utilisent l'imaginaire, et particulièrement qui fréquentent les décors dits post-apocalyptiques, peuvent amener beaucoup. Par ces formulations de questionnements, ces illustrations d'interrogations, de doutes, de demandes qui taraudent le public, qui nous taraudent tous, et qui sont exprimées de manière à la fois ludique et profonde. Moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans cette littérature d'imaginaire, de toute façon, pas seulement dans le genre particulier du post-apocalypse.
Est-ce que le post-apo, on a entendu plein de choses dont vous avez parlé dans ce que vous avez dit. On a parlé de capitalisme, on a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé de crise politique et de crise morale. Est-ce que le post-apo est forcément un rejet de quelque chose d'aujourd'hui ? Par exemple pour vous.
Alors, un rejet, c'est une interrogation, en tout cas. C'est une remise en cause, certainement. C'est une critique, bien entendu. C'est un regard qui se veut distancié, qui se veut aussi presque curatif, puisque on est tout à fait légitime à esquisser des solutions. Oui, c'est un regard qui interroge, en tout cas. C'est une littérature qui interroge, qui est faite pour ça, pas seulement une littérature de distraction, une littérature profonde, encore une fois.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a du millénarisme, quand même, dans le post-apo. Et quand on prend historiquement le millénarisme, il a duré jusqu'en 1100, à peu près. Donc après, en fait, l'an 1000, ça qui est marrant, c'est qu'on pensait que ça s'arrêterait, que l'histoire s'arrêtait au sommet de la 1000. Mais en fait, ça a duré. Et donc, c'est un peu comme les témoins de Jéhovah qui prédisaient la fin du monde tous les 5 ans, puisqu'ils se plantaient régulièrement, alors ils remettaient, non, en fait, c'est 5 ans plus tard, c'est 10 ans plus tard, puis ils ont fini par arrêter, parce que quand même, au bout de 20 fois, ça se voyait. Mais on est quand même dans cette logique-là d'une sorte de temps historique. C'est une façon de refuser l'histoire aussi. le post-apo. De dire que de toute façon, l'histoire va dans le mur, on va tous crever, le système est à bout de souffle et va s'effondrer. Parce qu'il ne peut pas s'adapter, alors que s'il y a bien un truc qu'a réussi à faire le capitalisme, c'est s'adapter. C'est même une de ses grandes. Et puis d'ailleurs, ça ne s'est pas effondré. C'est donc bien qu'il a une plasticité, une capacité à récupérer même sa contestation, qui est quand même assez remarquable. Et le post-apo, c'est un peu, enfin moi, de mon point de vue, cette espèce d'échec justement à voir le capitalisme comme quelque chose qui est impensable après. Et le fait de montrer un système qui s'effondre, mais où la plupart des gens déjà se sont exterminés ou sont morts, et tout, ça veut dire aussi que c'est un échec du collectif à penser au-delà du capitalisme aussi. Enfin, au-delà du système tel qu'il existe. Donc, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de profond. Enfin, c'est ma vision à moi, peut-être parce que c'est un genre qui est très américain aussi. Je trouve que c'est quelque chose de très libéral, en fait, d'imaginer que une fois que le système s'est effondré. Une espèce d'impossibilité à reconstruire du collectif sur d'autres bases, et donc l'homme est un loup pour l'homme. Ça, c'est quelque chose de profondément libéral. L'homme est un loup pour l'homme. On est dans l'idéologie, en fait, quand on dit ça. C'est pas un retour à la nature. C'est l'expression d'une idéologie. Donc il y a de la politique dans le post-apo, qui est un échec politique aussi. Moi, enfin, c'est comme ça que je l'ai vu, mais c'est aussi parce que le genre, il s'est construit beaucoup aux États-Unis, qui est la terre libérale par excellence. Mais je vois aussi comment le genre a évolué en Europe et comment justement on trouve du post-apo qui a rien à voir avec depuis une quinzaine d'années, qui a rien à voir avec le post-apo des années 50-60, qui était celui de la peur de l'apocalypse nucléaire, en fait, de la terreur des blocs.
Oui, enfin, on peut dire quand même que la grande gloire du post-apo, chez les écrivains anglais. En particulier, Ballard fait du post-apo, mais très particulier, donc ça n'est pas forcément du post-apo politique, mais c'est du post-apo physique, des bouleversements géologiques de la planète qui induisent des changements complètement de climat et de conditions de vie, qui donne une autre vision du post-apo. Je crois que c'est aussi très intéressant. Il y a eu tant d'écrivains anglais, j'en ai lu encore dernièrement, qui continuent dans ce monde. C'est vraiment quelque chose qui obsède les Anglais, c'est le post-apo, mais un post-apo plutôt climatique, géologique, anthropique. Géographique, anthropique. Voilà. Mais ce que je trouve aussi, c'est ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est en plus de tout, c'est le post-apo et la science-fiction en général, c'est surtout l'exploration des possibles. C'est-à-dire que avant tout, c'est le post-apo individuel. C'est-à-dire que, comme la société change avec l'avancée des formidables de la technologie, en un siècle, tout a été bouleversé. Donc, pour chaque individu de la planète, même dans les pays les plus éloignés comme dans les pays les plus civilisés, il y a eu un changement tellement brutal de société qu'ils sont obligés de s'adapter. Donc, toutes les histoires qui sont des post-apo individuels, c'est comment l'individu va s'adapter au changement de société. Ça, c'est quand même une des choses les plus importantes du système. Et par exemple, on peut aller très loin et inventer des choses complètement invraisemblables, mais qui peuvent arriver. Et par exemple, dans le troisième volume de L'Europe après la pluie, qui s'appelle En souvenir du futur, j'ai imaginé que les capitalistes chinois avaient chassé les communistes qui s'étaient réfugiés en Yougoslavie. Donc là, par exemple, on a une impossibilité, mais ça donne quand même des contradictions qu'il faut résoudre pour un auteur et qui sont quand même assez passionnantes et qui peuvent poser des problèmes et des réflexions assez, assez profondes sur l'état actuel du monde.
Pour moi, le post-apo, ce qui est intéressant aussi, c'est la notion de cannibalisme dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on parle de capitalisme et de choses comme ça, le capitalisme qui s'adapte, mais toutes ces sociétés qui s'adaptent jusqu'à ce point de rupture, et qui nous ramène après de la société à l'individu, ce qui m'intéresse vraiment dans ces rapports humains et l'individu. Et on voit comment l'homme essaye de survivre, et comment la société se cannibalise elle-même, comment l'homme se cannibalise. Je pense notamment à quelque chose qu'on n'a pas encore cité, mais la route. Et quelles sont les limites de l'humanité, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour survivre ou pour s'approprier une terre. Et je pense que c'est ça aussi comme ce qui peut être intéressant, en tout cas comme réflexion, puisqu'on parle de philosophie de réflexion et de questionnement quand même assez profond. Et ce qui est intéressant aussi, je pense, pour les lecteurs ou ceux qui vont au cinéma, parce que c'est un genre qui se prête justement au cinéma et à la littérature. Donc voilà. Je sais pas.
Et aussi une chose intéressante, c'est l'après-post-apo. Et l'exemple le plus frappant, c'est quand même la machine à explorer le temps de Wells, où finalement le monde est complètement éclabouté, éclaté, etc., et renaît une autre société. Donc ça aussi, c'est aussi une réflexion philosophique sur une recomposition du monde telle qu'elle peut être imaginée par des auteurs comme Wells. Et donc malheureusement, j'oublie toujours son nom, un roman absolument bouleversant qui s'appelle « Évolution », dans lequel, justement, il y a toute l'histoire de l'humanité depuis le plus petit homoncule du début. Et donc, ça avance jusqu'à passer par notre civilisation. Ça dépasse notre civilisation, donc, qui se détruit, etc. Et ça se termine d'une manière tout à fait inimaginable, dans lequel il y a une espèce de fusion globale entre les végétaux, les humains, les animaux, et qui crée une espèce de société tout à fait différente. Et je crois que là, la science-fiction permet une réflexion sur les lendemains de l'humanité qu'aucun auteur de littérature générale ne peut donner.
On commençait à parler des films et donc de toute l'imagerie. Est-ce que quand vous écrivez du post-apo ou l'après, vous avez des images en tête, vous êtes marqué par des choses particulières?
Moi, j'en écris pas.
Si tu as fait une nouvelle.
Ah bon, j'ai bien dit oui. Ouais. Moi, en plus, comme j'ai la double casquette d'illustrateur, c'est vrai que le post-apo, c'est visuellement, c'est un univers qui est très très riche. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la décrépitude, les lieux abandonnés en fait, que ce soit suite à une catastrophe ou tout simplement parce qu'on s'en sert plus. Il n'y a qu'à aller sur Internet et chercher des sites de photos de gens qui font des safaris photos dans les lieux abandonnés. Et s'il y en a des dizaines. Et c'est extrêmement évocateur. C'est quelque chose qui fascine tout le monde.
Ouais,
on adore, par exemple, Pripyat, mais même sans aller jusque-là, la moindre usine à l'abandon, le moindre ancien je sais pas, complexe industriel, une école à l'abandon, etc., dans laquelle les plantes ont poussé, les vitres sont cassées, c'est tagué, etc. C'est très riche en termes d'imaginaire, parce que ça raconte des choses. On imagine tout de suite beaucoup d'histoires, ce qu'il y avait avant, ce qui a mené à l'abandon ou à la catastrophe, si on est dans un post-apo, et ce qui s'est passé depuis. Et ça, c'est hyper intéressant, et pour un auteur, et pour un illustrateur. Un lieu à l'abandon, c'est un lieu qui parle tout seul, qui parle de lui-même.
Pas bien, avec Détroit, peut-être.
Mais évidemment, quand on parle de Détroit, on parle d'Urbex, donc Urban Exploration. C'est des gens qui vont dans des lieux abandonnés. Alors, suite à recherche, il y a plusieurs écoles, mais ce qui est important, en tout cas pour les gens qui font de l'urbex, c'est de passer sans laisser de traces derrière eux. Donc, c'est intéressant par rapport justement à l'histoire des lieux. Et évidemment, prendre des photos, c'est ce qu'on trouve sur Internet et ce qui enrichit l'imaginaire. Parce que je pense aussi quand on a une table bien lisse comme ça, c'est moins intéressant à regarder que s'il y a un accro, un pet, où on se dit c'est passé quelque chose. Déjà, ça, l'imaginaire rebondit plus facilement par rapport à ça. Quoi. Et je ne me souviens plus quelle était la question. Quoi.
Qu'est-ce qui, toi, t'a intéressé dans Détroit?
Détroit, c'était ça. C'est tout cet urbanisme qui est défoncé, qui a une histoire propre, notamment si on pense à un des clichés de Détroit qui est la gare centrale. La gare centrale a fermé parce qu'il n'y avait plus assez de gens qui passaient là-bas. Et elle a été rachetée plusieurs fois. Et depuis, si je ne me trompe pas, depuis les années 80 en fait, elle est à l'abandon, vraiment, et elle appartient à un milliardaire en fait. Et je trouve que c'est assez marrant comme paradoxe d'avoir justement cette double casquette de milliardaire qui laisse les trucs à l'abandon, et on est vraiment à deux pas du post-apo par rapport à ça. Ça, évidemment, quand on cumule ça au street art et les gangs, et on retrouve vite les codes du post-apo avec ça. Quoi.
Oui, justement, il y a cette construction des codes qui est assez effrayante dans le cinéma en général, je trouve, parce que, à partir du modèle de Mad Max, il y a une espèce de classicisme du post-apo qui s'est instauré et qui finit par se répéter de film en film, qui quand même arrive à une sorte de satiété. Quoi. Il faudrait renouveler le post-apo.
Moi, je trouve que ça s'est plutôt bien renouvelé, moi, personnellement, parce qu'on trouve des choses très différentes, en fait, maintenant. Je trouve que dans le côté urbain envahi par la jungle, qu'on a dans le remake de Omega Man avec Will Smith, de Je suis une légende,
oui.
Par I Am Legend, oui. Mais qui était en fait un remake plutôt du film, en fait, qui était lui-même une trahison du roman. Les premières minutes sont quand même remarquables. On voit les gratte-ciels de New York qui sont envahis par des lianes et des choses comme ça. Il y a ce côté que j'adore, qui est la mise en image de la phrase de Valérie, je crois, qui était que nous, civilisation, savons que nous sommes mortels. Je trouve que ça met en image, le post-apo met en image ça. Met en image qu'on est borné dans le temps et que notre civilisation, même en dehors, j'allais dire, de la critique capitaliste, on va dire, et de la critique de la société de maintenant, c'est pour ça que c'est pas, faut pas forcément le voir comme quelque chose de négatif, je veux dire, de la mort de la vie. C'est peut-être tout simplement que quand une espèce a fait son temps,
c'est un renouveau. On éradique tout, on repart à zéro et on recommence.
Enfin, dans le millénarisme, il y avait j'allais dire l'avènement du royaume de Dieu quand même. On n'était pas dans un cycle, on était dans la fin de l'histoire, qui est pas tout à fait la même chose. On est plutôt avec comme ça, c'est les villes rendues aux animaux et avec donc la possibilité des espèces animales de recommencer à finalement le processus de sélection naturelle que nous on a interrompu finalement en exterminant les espèces plus vite qu'elles ne peuvent s'adapter. On a interrompu finalement le cycle de la vie et c'est le retour de la vie en fait d'une certaine manière. Si on le voit d'un point de vue écologique, c'est le retour de la vie. Et quand on voit quand même l'auteur fondateur de la SF francophone, René Aîné, la mort de la Terre, c'est pas du tout la mort de la Terre. C'est la fin de l'humanité et la fin d'un règne pour l'avènement du suivant. C'est-à-dire que c'est l'humanité passe le relais, en fait. C'est pour ça qu'il y a vraiment plein de lectures et ça peut être quelque chose on peut avoir un traitement nostalgique, mais pas nihiliste, voilà, on peut avoir des tas de traitements différents et pas forcément négatif au sens la mort de la matière.
Est-ce que, et ce sera peut-être la dernière question, est-ce que en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain, en tant que personne qui imaginait des récits et des histoires, il y a un plaisir particulier justement à faire du post-apo, que ce soit mettre en scène ces images qu'on vient d'évoquer, hein, New York envahi par les lianes, ou que ce soit le renouveau, par exemple, de petites communautés?
Ah ben, il y a certainement plaisir. Moi, je ne vais pas me faire une spécialité du post-apo. Hein. C'est mon premier récit, ce sera sûrement mon dernier dans cette veine-là. Mais c'est vrai que c'est un univers extrêmement foisonnant, qui est ouvert sur plein de possibles. C'est un univers qui est très, très sensuel, parce que justement, comme les sociétés s'effondrent, il y a un nouveau, comme tu le disais très bien, un nouveau surgissement qui se produit. Oui, il y a un vrai plaisir à mettre en scène ces univers-là, bien entendu. Juste un petit complément sur la question précédente. Moi, je me suis beaucoup inspiré des archives de Life, sur la période 1930, la Grande Dépression. Là, il a mis en ligne ses archives. Il y a des photos absolument extraordinaires qui sont bouleversantes et qui complètent très bien cette référence au Détroit contemporain. Voilà, on peut trouver effectivement des choses qui sont très très marquantes, très émouvantes et qui inspirent des tas d'histoires et des tas de scènes. Voilà, puisque écrire, c'est une sensualité aussi dans les mots et dans les images qu'on essaye de transmettre et de faire passer. Donc les sources visuelles, bien entendu, sont très importantes.
Dans le romantisme, il y avait la poésie d'Erwin, et il y a ça dans un certain type de post-apo.
On retrouve un grand facile romantique.
Donc j'ai rien de spécial.
Moi, comme beaucoup de personnes dans la salle, peut-être quelques-unes, j'ai pas mal de trucs en cours, en parallèle. Je bosse aussi donc, sur les Dust Bowls, qui sont justement les années 30 dans le sud des États-Unis, avec ces grandes tempêtes de sable, ces ciels qui s'obscurcissent et la perte définitive de la vie pour des milliers de personnes.
C'est Ballard, quoi. C'est...
Ouais, voilà. Et je trouve que c'est très inspirant. Je travaille encore. Je pense que pas mal d'auteurs ont ces récurrences de thèmes, mais sur l'humain et comment l'humain réagit et va vers l'autre, puisqu'on est aussi dans des périodes très clivées, racialement parlant et sociétalement parlant, puisque c'est des petits villages qui du coup vont subir les mouvements des travailleurs, ce qu'on appelle les hobos, qui vont voir arriver des étrangers, qui vont vouloir leur piquer leur boulot alors qu'il n'y en a déjà pas parce qu'on est dans la crise de 29 et ce genre de choses. Et c'est très inspirant, je trouve, pour créer, pour écrire. D'un autre point de vue, en termes de jeu de rôle, j'ai fait un jeu de rôle qui s'appelle Islandigar, qui est du post-apo néandertal, je dirais, un truc comme ça. En fait, pour vous situer, on a un continent qui est séparé par des grandes chaînes de montagnes. Il y a un cataclysme climatique. Et suite à ça, les peuples se rencontrent. Mais évidemment, les peuples sont très différents. Et donc, dans ce jeu-là, on interprète des peuples donc inspirés des peuples qu'on connaît comme les Inuits, les Celtes, les Scythes, le peuple néandertal aussi, en travaillant aussi sur l'historique mais sur les clichés parce qu'on est dans un jeu donc faut grossir des fois un peu le trait. Mais il y a cette notion de post-apo, de comment on survit au climat et comment on vit ensemble ou comment on est obligé aussi de vivre ensemble parce que l'environnement est hostile et si on est tout seul, ben on ne vit pas très longtemps.
Non, parce que finalement, moi personnellement, je ne suis pas un fanatique du post-apo, là, je dis franchement. Et je crois quand même que cette situation du post-apo a quand même quelque chose d'un peu systématique et qui est exploité, évidemment, comme dit Laurent, d'une manière un peu différente aujourd'hui. Mais qu'il y a une espèce de sclérose dans ce domaine, et je pense que ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment. Le post-apo individuel est quand même beaucoup plus intéressant, même s'il s'agit de quelques personnes qui évoluent par rapport à une situation définie, mais qui a complètement changé radicalement. Parce que finalement, ce qui est important, c'est le changement radical de l'environnement. À partir du changement radical de l'environnement, donc l'être humain va être obligé de développer des facultés qu'il ne se connaissait pas. Et donc, c'est ce qu'il y a peut-être de plus intéressant. Alors, on parlait du millénarisme, mais aujourd'hui, nous avons le bimillénarisme. Et là, le bimillénarisme, c'est aussi le retour du religieux. Et donc, là aussi, on a une espèce de post-apo qui va nous amener à une réalité qui sera peut-être pire que le post-apo qu'on a pu voir auparavant.
Oui, juste, je voudrais juste... Parce qu'on parle de post-apo, mais je pense qu'il y a un thème ou un sujet connexe, c'est les zombies. Parce qu'on parle d'auteurs anglais, on parle de films, et je pense forcément à 28 jours plus tard. Et justement, ces micro-sociétés qui vivent dans un cadre hostile, comme tu disais, et on retrouve vraiment ça.
On arrive doucement à la fin. Est-ce que c'est le temps des questions? Est-ce que quelqu'un a des questions à la salle sur le post-apo ou sur les œuvres des auteurs. Quelque chose à ajouter ? Et bon, on va vous remercier, on va remercier les auteurs, merci à vous d'être venus, n'hésitez pas à aller consulter leurs livres. Voilà.